Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question de parler de littérature, non. On laisse plutôt parler la littérature comme une grande. On va lire des livres, tourner des pages, bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, puisqu'on va lire un extrait de La ferme des animaux de George Orwell. Vous me direz, La ferme des animaux, c'est seulement 151 pages. Vous aurez raison, mais peu importe le nombre de pages. Ce bouquin, c'est une pépite, c'est une fable dystopique. Que dis-je, une fable dystopique ? C'est un monument, tout à fait à l'image de son auteur, le grand George Orwell. De lui, vous connaissez sans doute 1984 ou encore Hommage à la Catalogne. On va prendre quelques minutes pour présenter l'homme avant de parler de la ferme des animaux. George a grandi dans la Grande Angleterre du début du XXe. Il est issu de la bourgeoisie moyenne et passe une partie de sa jeunesse en Inde. Après une expérience malheureuse comme sergent dans la police impériale, il démissionne et décide de devenir écrivain. Son premier roman, c'est le récit de ses mois d'errance et de galère à Paris et à Londres. Il poursuit l'écriture les années suivantes, toujours au contact des plus démunis. Au total, il écrira 9 ouvrages, dont le célèbre 1984 et le non moins reconnu La ferme des animaux, dont nous allons lire quelques pages aujourd'hui. Comme on peut s'en douter, l'histoire se déroule dans une ferme. Les animaux, exploités par les hommes, décident de se révolter et chassent les fermiers de l'exploitation. George Orwell décède prématurément en 1950 à 47 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains britanniques et un des plus grands pourfendeurs de tous les totalitarismes. Lecture du jour, je débute page 20. Les animaux de la ferme du manoir viennent d'écouter un discours enflammé du cochon. Pour notre lecture du jour, je débute page 20. Les animaux de la ferme du manoir viennent d'écouter un discours enflammé du cochon sage l'ancien, le doyen de l'exploitation. Trois nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant. Mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et, entre les cochons, les plus éminents étaient Boule de Neige et Napoléon, deux jeunes verrats que M. Jones éleva pour en tirer un bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de paroles, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de Neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brill Babille, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brill Babille, enfin, était un causeur éblouissant, qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait donc à dire que Brilbabil pourrait bien faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boule de Neige et Brilbabil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois M. Jones endormi, ils tenaient des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres le principe de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à M. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes, disant, par exemple, « C'est M. Jones qui nous nourrit, sans lui, nous dépéririons. » Ou bien, « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand ils n'en seront plus ?» Ou bien encore, « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un. » De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus subtiles étaient encore celles de Luby, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige. « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ?»« Non, lui répondit Boule de Neige, d'un ton sans réplique. Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est du superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. » « Est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade, répartit Boule de Neige, ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colichets. » Luby acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges corporés par Moïse, le corbeau apprivoisé qui était le chouchou de M. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. Allons croire, il existait un pays mystérieux, dit « montagne du sucre candy », où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne du sucre candy se trouvait au ciel un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait forcément à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait aux haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'il n'avait pas à trimer comme eux, mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne du sucre candy, et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait, Malabar et Douce. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes, mais une fois les cochons devenus leurs maîtres à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la grange. Et là, entretenaient les autres à chanter « Bête d'Angleterre ». Sur cet hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, M. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche. Mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal, un verre de bière apporté de la main dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ses ouvriers agricoles étaient des filous et des feignants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient ruine, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture.
Antoine avant moi, y a eu Dylan avant lui. Après moi, qui viendra après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme, qui étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Vous venez d'écouter Société, tu m'auras pas de Renaud. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de La ferme des animaux de George Orwell. Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, Monsieur Jones se rendit à Wellington. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de la bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Monsieur Jones s'affala sur le canapé et s'endormit un hebdomadaire à sensation sur le visage, et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors, l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre, et bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les bottes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses 4 ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous les côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord et sans s'être concertés, les meurtres lafin se jetèrent sur leur bourreau. Et voici les 5 hommes en butte aux ruades des coups de corne changés en souffre-douleur. Une situation inextricable. Car de leur vie, leur maître n'avait jamais vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leur trousse. De la fenêtre de la chambre, Madame Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Moïse bondit de son perchoir, battit des ailes et la suivit en croassant à plein gosier. Entre-temps, toujours pourchassant les 5 hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux 5 barreaux. Ainsi, et presque avant qu'il s'en soit rendu compte, le soulèvement s'était accompli, Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans les puits morts, nassières et laisses, et ces couteaux meurtriers dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnelets. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi, des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux joyeusement se prirent à gambader. Boule de neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on part la crinière et la queue des chevaux les jours de marché. Les rubans, déclara-t-il, sont assimilés aux habits, et ceci montre la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. Entendant ces paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches, et le flanqua au feu avec le reste. Bientôt, les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Monsieur Jones. Alors, Napoléon les ramena à la resserre, et il distribua à chacun double ration de blé, plus 2 biscuits par chien. Et ensuite, les animaux chantèrent « Bêtes d'Angleterre » du commencement à la fin, 7 fois de suite, après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude. Et, se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous coururent au pâturage. Puis ils filèrent vers le monticule d'où l'on a vu sur presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin. Oui, il était bien à eux désormais, tout ce qu'ils avaient sous leurs yeux les appartenait. À cette pensée, ils exultaient. Ils bondissaient et caracolaient, ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. À coups de sabots, ils arrachaient des mottes de terre pour mieux renifler l'humus bien odorant. Puis ils firent l'inspection de la ferme et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard. Les labours, les foins, le verger, l'étang, le bouqueteau. C'était comme si, de tout le domaine, ils n'avaient rien vu encore. Et même alors, ils pourraient à peine croire que tout cela était leur propriété. Alors, ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme et devant le seuil de la maison firent halte en silence. Oh, certes, elle aussi leur appartenait, mais intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, cependant, Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte de l'épaule et les animaux les suivirent un par un à pas précautionneux par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce sur la pointe des pieds, c'est à peine s'ils osent chuchoter et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lit matelassé de plumes, miroir, divan en crin de cheval, moquette de Bruxelles, estampe de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Luby n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elle était restée dans la grande chambre à coucher. Elle s'était emparée d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Monsieur Jones et s'admirait dans la glace en le tenant sur son épaule et tout le temps avec des poses un peu ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer et d'un bon coup de sabot de Malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boule de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière.
Si j'avais dans mes uniformes, rien que des marques identifiées, les choses me donnent une identité. J'ai pris les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses, elle comble ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Des choses à mettre avant, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trop le sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. Jordan, je suis un peu lui dans ses chaussures. J'achète pour être, je suis quelqu'un dans cette voiture. Une vie de flash en flash, clip et club et clope et fast food, fastoche, speed ou calmant mais fast. Tout le temps zap, le vide et l'angoisse. Plus de bien, de mal. Mais est-ce que ça passe à la télé, Nobel ou scandale? On dit VIP. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses et elle coule ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Des choses à mettre, à vendre, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trop le sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses et les choses ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Un tatouage, un piercing, un bijou. Je veux l'image, l'image c'est tout. Le bon langage, les idées qu'il faut. C'est tout ce que je veux.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous avez raison, vous venez d'écouter Les choses de Jean-Jacques Goldman. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours dans le sillage de Napoléon et Boule de neige. Camarade, dit Boule de neige, il est 6h30 et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre, mais il y a une question dont nous avons d'abord à discuter. Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des 3 derniers mois dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ceux-ci l'avaient jeté sur un tas d'ordures et c'est là que les cochons l'avaient récupéré. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux 5 barreaux. Là, Boule de neige, car c'était lui le plus doué pour écrire, fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « ferme du manoir ». Puis à la place, il calligraphia « ferme des animaux ». Car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boule de neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs 3 mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à 7 commandements. Le moment était venu d'instruire les 7 commandements sur le mur. ils constitueraient les lois imprescriptibles de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelques mal, vu que, pour un cochon, se tenir en équilibre sur une échelle n'est pas commode, Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Brilbabil, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture. Et c'est de la sorte que furent promulgués les 7 commandements en gros caractères blancs sur le mur goudronné. On pouvait les lire à 30 mètres de là, voici leurs énoncés. 1. Tout deux pattes est un ennemi. 2. Tout quatre pattes ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dominera dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est qu'une volatile était devenue voltile et au-dessus, après un S formé, à l'envers. Boule de Neige donna lecture des 7 commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Et tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête, et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les 7 commandements par cœur. Et maintenant, camarades, au foin ! S'écria Boule de Neige. Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le feraient Jones et ses acolytes. Mais à cet instant, les 3 vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait 24 heures qu'elles n'avaient pas été traites, leur pie était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien, car les pieds de cochon convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis 5 seaux de lait crémeux et mousseux que maints animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ?» Et l'une des poules « Quelquefois, Jones en ajoutait à la pâtée. » Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait, camarade, on va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de Neige va nous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarade, le foin vous attend. » Aussi, les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand au soir, ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, La ferme des animaux de George Orwell est éditée par la maison d'édition Gallimard dans sa collection des livres de poche Folio. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast sur le site de Canal B. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.